Bonjour, vous êtes bien sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Voici un épisode du podcast Un déjeuner chez Bernard qui parle du nucléaire et de son monde. Comme en Drôme, nous sommes proches des installations de Cruas-Metz en Ardèche et Tricastin dans la Drôme, il nous semblait important d'aborder ces questions du nucléaire à l'antenne. Vous retrouverez un épisode tous les 4e mercredi du mois à midi. Le reste des épisodes se trouve en ligne sur les plateformes de podcast. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. On reprend notre bonne vieille formule, puisque aujourd'hui je suis avec Bernard. Nous venons de manger une petite tarte aux pommes, ça sera donc tarte pomme et ITER, car il ne vous a pas échappé que dans les informations récentes, il y avait eu une percée incroyable aux États-Unis, une nouvelle découverte fantastique sur la fusion. Bernard, qui vient de me le dire, n'est pas un spécialiste de la fusion, mais j'avais quand même envie de venir discuter avec lui de ce sujet, parce qu'il a suivi toute l'histoire de ce projet en France qui s'appelle ITER, qui est une autre technique que ce qui se passe aux États-Unis. Et donc j'avais envie quand même de réfléchir à qu'est-ce que ce projet raconte de la science d'aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais quand même faire un petit rappel, peut-être un peu technique, sur la différence entre la fusion et la fission. Ça, je pense que tu peux m'en parler, Bernard, non ?
Oui. Alors la fission, c'est donc... Un neutron qui tape dans un noyau de l'isotope 235 de l'uranium, l'uranium étant un produit qu'on trouve dans la nature, et cette fission produit une explosion locale avec une libération d'énergie sous la forme de chaleur et la production de produits radioactifs, à peu près. Cette fission a été découverte du point de vue scientifique, par les calculs, juste avant, en 1938, il y a eu toute une série de grands savants, dont Frédéric Joliot-Curie en France, qui ont découvert la structure du noyau de l'atome avec les neutrons et les protons, et puis les électrons qui tournent autour et qui constituent l'atome d'un élément comme l'uranium. Et ils ont découvert la fission, théoriquement. Et le fait que cette fission produise elle-même des neutrons fait que si on a un arrangement correct d'un milieu contenant suffisamment d'uranium 235, ces neutrons vont à leur tour taper sur d'autres noyaux d'uranium 235. Ça peut se multiplier très rapidement. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Et donc, ils avaient trouvé ça du point de vue théorique, ils avaient même pris des brevets. Joliot-Curie avait pris des brevets sur cette possibilité d'utiliser la fission. Aussi bien d'ailleurs pour faire des usages civils, la production d'électricité, et à partir de la chaleur qui était produite par la fission, et aussi la possibilité d'application militaire si on avait suffisamment d'uranium 235, une très forte proportion d'uranium 235. Et la preuve expérimentale de la réussite de la fission et de la réaction en chaîne s'est produite en 1942, avec l'équipe d'Enrico Fermi, qui était un très grand physicien italien, qui s'était réfugié pour des raisons politiques aux États-Unis. Donc en 1942, on a prouvé que la fission marchait. Après, on a pu faire des réacteurs nucléaires qui fonctionnaient. Donc ça, c'est la fission. Et ce qui est intéressant, c'est que le passage de la théorie à la pratique a été très rapide. 38-39 jusqu'à 1942. En 3 ans, okay. On est passé à la preuve. Après, ça a donné le développement du projet Manhattan pour fabriquer justement les bombes atomiques, soit à partir du plutonium fabriqué dans des réacteurs, soit à partir de l'uranium enrichi, c'est-à-dire contenant beaucoup d'uranium 235. Et là aussi, ça a été extrêmement rapide, puisque le projet Manhattan a mobilisé des centaines de milliers de personnes et des sommes absolument gigantesques dans des grands centres de recherche américains. 2 bombes. Ont été utilisés contre le Japon. La bombe d'Hiroshima était une bombe à l'uranium enrichi et la bombe de Nagasaki était une bombe au plutonium. Et donc, ça a été les applications, tant civiles, c'est-à-dire faire des moteurs de sous-marins par exemple, que militaires, ont été extrêmement rapides. La fusion, c'est différent. C'est complètement, on peut dire, à l'opposé. C'est-à-dire, si l'on arrive à faire... Se joindre deux isotopes très légers, le deutérium et le tritium, des isotopes de l'hydrogène, qui sont des noyaux, des atomes très légers, très petits on peut dire. Si on arrive à les faire se rencontrer, se choquer ensemble, ça produit une quantité énorme d'énergie.
Alors, ça, ça a été une recherche scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des calculs qui disent que oui, si on arrive à faire ça, ça va faire...
Et c'est ce qui se produit à cause justement, ces noyaux peuvent s'être soudés à cause de la gravitation dans le Soleil. C'est la gravitation qui fait qu'ils sont compressés et que sans arrêt, il y a donc des fusions qui se produisent sans arrêt dans le Soleil et c'est ça qui produit toute l'énergie qui est après envoyée... y compris sur la Terre. Donc la fusion, premièrement, c'est ça, ce qui se passe dans le Soleil. Deuxièmement, ces mêmes scientifiques, qui en gros, c'était la même équipe de tous ces scientifiques prix Nobel, avec des noms Rabinovitch, Rabi, tout ça. Moi, j'avais participé en 1967 à une réunion, ce qu'on appelle PEGWASH, c'est un groupe des groupes de scientifiques qui se rencontrent régulièrement. J'étais mêlé à ça en 67, et alors c'était extraordinaire parce qu'il y avait au coin de tous les couloirs, il y avait des prix Nobel, il y avait ces gens-là qui étaient encore là, quoi. Okay. La plupart d'entre eux, pas Fermi, mais d'autres. Et donc ces savants se sont appliqués à développer avec le projet Manhattan, qui après leur a échappé, c'était un projet industriel et militaire, mais quand même c'est Oppenheimer qui était quand même le grand savant à cette organisation de cet épisode, disons. Et les mêmes après, ont continué à travailler sur la fusion. Et malheureusement, ça s'est produit juste après la Seconde Guerre mondiale, et ça a été la course aux armements, avec le début de la guerre froide. Et cette découverte s'est traduite par la mise au point de ce que l'on a appelé la bombe à hydrogène, qui est une bombe à fusion beaucoup plus puissante que les bombes atomiques. Et la bombe à hydrogène, c'est vraiment l'apocalypse, c'est-à-dire s'il y a une bombe à hydrogène, ça peut suffire à éliminer l'hémisphère nord, quoi. Et c'est là où se situe la limite de la responsabilité des scientifiques, c'est-à-dire est-ce que... emportés par la curiosité scientifique et l'extraordinaire, prouver que ça pouvait être réalisé, c'est-à-dire la preuve expérimentale, l'équivalent de la pile de Fermi et des explosions des bombes atomiques, arriver à l'équivalent, et après... un certain nombre d'entre eux se sont mordus les doigts, c'est-à-dire se dire, bon, j'ai mis mes capacités scientifiques extraordinaires au service de l'arme absolue, on peut dire, c'est-à-dire de l'arme la plus terrible qu'on ait jamais inventée, et qui est donc la menace actuelle. La menace actuelle d'une guerre atomique, dans l'absolu, ce n'est pas la bombe à fission, mais c'est la bombe à hydrogène qui a une puissance destructrice absolument considérable. Donc la fusion a réussi pour l'application militaire. Et donc, tout le monde s'est dit, on va faire pareil pour les applications civiles. Alors, je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire que pour obtenir cette fusion, il faut... que les noyaux légers se percutent suffisamment pour que la fusion se produise, il faut une énergie considérable au départ.
Okay.
Pour les obliger. Quoi.
Pour les obliger à se rentrer dedans.
Dans le Soleil, c'est la gravitation, mais sur Terre, ce n'est pas la gravitation. Donc, il y a un détonateur qui fournit cette puissance. Et le détonateur, c'est une bombe atomique.
Incroyable.
Tu vois ? Incroyable.
C'est-à-dire que dans la bombe à hydrogène, il y a une bombe atomique pour faire que ça devienne une fusion après.
Voilà. Bon,
okay.
Alors...
Ah oui, il faut beaucoup d'énergie.
Voilà. Et donc, pour passer au civil, évidemment, je ne peux pas faire un détonateur...
qui est une bombe atomique.
Qui est une bombe atomique.
Non.
Non. Donc, il faut trouver d'autres moyens.
Okay.
Alors, il y a des moyens. Alors, c'est là où... ma compétence n'est pas suffisante. Il y a différents moyens qui ont été imaginées pour,
pour le détonateur.
Pour arriver à cette fusion. Et dès les années de, disons après la guerre, dans les années 50, on nous dit bon, la fusion donc est possible, hein, puisqu'on l'a réussi pour les armements, une bombe. Et donc, ça va être plus compliqué du point de vue civil, mais on peut dire que, bon, on devrait y arriver dans les 40 ans.
D'accord.
On se donne 40 ans parce que, bon...
On voyait déjà quand même loin, quoi.
Oui, quand même, il était prudent.
Ouais.
Bon, parce qu'il s'apercevait bien que cette histoire de détonateur, c'était vrai, il fallait trouver un moyen de les obliger à se rencontrer. Et donc, 40 ans. 10 ans après, c'était toujours dans 40 ans.
Okay.
20 ans après, c'est toujours dans 40 ans.
Okay.
Et aujourd'hui, on dit bon, probablement 40 ans.
Okay.
Alors d'abord, ça a un côté un peu comique. Et alors, il y a plein d'articles où même les scientifiques se moquent entre eux. C'est-à-dire, ben oui, mais on a encore 40 ans devant nous. Quoi.
Oui.
Et donc, il y a des tas de laboratoires au monde, les grands laboratoires. Tous ces gens qui ont travaillé sur la fission, alors les Anglais, les Français,
les Russes,
okay. Les Américains, tout le monde se prend la tête sur la fusion. Et il y a eu un événement, de la même façon, bon, pourrait-on dire, qu'il y avait eu une alliance entre la France et l'Allemagne, après la réunification de l'Allemagne, pour monter ensemble le projet EPR, dont on a vu le résultat brillant dans les années qui ont suivi, lorsque ce qu'on peut appeler la fin de la guerre froide, c'est-à-dire la réconciliation d'une certaine façon entre Reagan et Gorbatchev, il y a des scientifiques des deux côtés, qui étaient en particulier le conseiller de Gorbatchev, je ne me souviens plus de son nom, mais je l'ai rencontré une fois, qui ont dit, bon, on va faire un grand projet commun.
Ben oui.
Voilà. Alors, le grand projet commun, ces scientifiques bien placés, on leur dit des deux côtés, ah ben c'est la fusion.
Okay.
C'est la fusion. Donc on va faire un grand projet commun de fusion par une des méthodes qui avait commencé à être développée, okay. C'est-à-dire le fait d'utilisation de plasma de façon à produire cette fusion dans un appareil qu'on appelle les tokamaks, qui sont assez compliqués et qui permettent justement de créer une situation dans laquelle les deux isotopes vont se rencontrer et vont produire de la fusion.
Voilà.
Et alors voilà, donc le grand projet, alors, les mecs commencent à s'exciter, etc. Et puis en fait, très rapidement, l'URSS s'écroule.
Ouais.
Donc, le projet commun n'intéresse plus tellement.
Ouais,
ils n'ont plus de sous. Les Américains, ils se disent bof. Et donc, ce projet qui était pratiquement abandonné, dont le nom est déjà ITER, qui veut dire. Alors, ça, il faudrait trouver ce que ça.
Ça veut dire International. J'ai oublié, j'ai regardé.
Tokamak ou quelque chose. Bon,
ouais.
Là, tu le placeras dans tes.
Je le placerai au montage. Non,
au montage, quand tu diras. Mais oui, Bernard, c'est
oui.
Évidemment, c'est le International Tokamak.
Voilà.
Donc, le
réacteur,
réacteur. Oui, il doit y avoir réacteur.
Il doit y avoir réacteur.
Et donc, alors là, bon, sur ce projet, les Américains, bof, la Russie, bon, la plus moyen, bof. Et. Les deux nations très, très pro-nucléaires et très, d'une certaine façon, un nationalisme nucléaire s'en emparent. La France, soutenue par l'Europe, en Europe, le nucléaire, c'est la France qui commande, qui veut faire ce qu'elle veut, etc. Et de l'autre côté de la Terre, le Japon.
Okay.
Qui lui aussi a des ambitions nucléaires fortes,
ouais.
Alors pas militaires, mais bon. Mmh.
Mais qui les deux cherchent à avoir, sans faire de mauvais jeu de mots,
un rayonnement à travers cette puissance nucléaire.
Voilà, alors, et ça commence, ITER c'est pour moi, ITER c'est pour toi. Etc.
C'est-à-dire qu'il y a une discussion sur où est-ce qu'on va implanter ce projet de recherche.
Voilà, un projet de recherche formidable, tout le monde a des sous, etc. Il y a quelques autres pays qui sont intéressés, mais les deux champions qui veulent l'avoir, c'est le truc. Alors en France, il n'y a pas d'opposition. Enfin, il y a des gens comme nous qui disent que l'ITER, bon, c'est pas très intéressant, c'est pas forcément très bon. Il y a des cahiers de Global Chance qui en parlent à cette époque. Donc il y a une vingtaine, plus de 20 ans. Tout ça se passait dans les années 90, quoi.
Okay.
Et au Japon, il y a un prix Nobel de physique respecté qui dit, écoutez, dans un pays où il y a des séismes tous les matins, ITER,
bof.
Bof. Parce que si effectivement tu as des problèmes avec cette circulation du plasma et que tu peux avoir des accidents très, très importants.
Ah bah oui.
Et le Japon dit, bon, mais finalement, c'est pas bien, mais on tient absolument à fournir beaucoup d'équipements.
Ok.
Les Français disent, non, nous, formidable. Et d'ailleurs, on va le mettre dans notre centre de recherche le plus important, à Cadarache. Bon, il se trouve que c'est quand même une zone un peu sismique.
Il y a quand même une faille, oui.
Bon, ça ne fait rien, bon. Donc commence ITER, la construction d'ITER, qui est quelque chose de très compliqué par soi-même. C'est la première fois qu'on fait un truc en soi, c'est hyper compliqué. Avec les plasmas, les parois en métal qui sont bombardées par des neutrons qui font qu'il faut les changer. Enfin, il y a énormément de problèmes techniques au corps d'ITER. Et en plus, les équipements que l'on rassemble à ITER sont fournis par l'ensemble des pays participants.
Ok, c'est un projet international.
Voilà, projet international. Par exemple, il y a un aimant colossal de 400 tonnes, le plus gros aimant au monde, fabriqué aux États-Unis,
okay.
Qui est nécessaire pour cette espèce d'édifice pharaonique, je crois. Ça doit être 80 mètres de haut, il était un truc comme ça, quoi.
Okay.
C'est hallucinant. Et donc, cet aimant va être livré des États-Unis à la France. Il est découpé en 6 morceaux parce qu'on ne peut pas transporter cet aimant,
c'est trop gros. Ouais.
Et comment ça se passe? Il arrive à côté de Marseille, il est débarqué, ces morceaux-là, ils sont mis sur des camions absolument colossaux.
Ouais.
Alors tous les équipements, ça sera comme ça. Quoi. La plupart arrivent par bateau.
Bah oui.
Du Japon. Alors il y a telle pièce qui vient de Roumanie, telle pièce qui vient de Corée du Sud, telle pièce qui vient des États-Unis.
Okay.
Et il y a des trucs absolument colossaux. Et on a construit une route, comme les routes romaines, toute droite, entre l'Avera et Cadarache, qui est consacrée uniquement à ces transports.
D'accord.
Alors, elle est toute droite et à pente faible. Et il paraît que, moi je ne l'ai pas vu, mais quand on se promène dans cette région, tout d'un coup, on tombe sur une route.
Mais qui est utilisée par personne.
Qui n'est utilisée que pour ça.
D'accord.
Donc, ces trucs-là arrivent un peu de partout. Et il y a eu un incident, c'est qu'il y avait une pièce, il y a des pièces, mais en particulier une pièce. Alors, chacune est indispensable, tu vois.
J'imagine que...
Alors, le robinet machin est fait, je ne sais pas par qui. Et il y avait une pièce qui a été livrée par les Américains. Et Trump, c'est la seule décision intelligente qu'il ait prise, a dit, écoutez, moi, j'en ai marre de cette histoire. Ça rime à rien, tout ça.
Oui.
On ne livrera pas la pièce. Alors, je crois qu'un ministre français est allé faire allégeance là-bas pour dire, écoutez, s'il vous plaît, livrez la pièce. Donc je crois que finalement, ils ont livré la pièce. Mais s'ils n'avaient pas livré la pièce, bon, ça s'arrêtait. Alors, tout ça, donc, petit à petit, s'est construit, pif, pouf, paf, pof, avec d'abord un directeur de projet japonais, et puis après un directeur de projet français, qui avait été le patron du commissariat à l'énergie atomique, Monsieur Bigot, qui a rassemblé tous les éléments. Et alors, ITER se construit petit à petit.
Okay.
Et il arrive, je crois, il y a un an ou deux, je ne sais plus, en disant, on va fermer, hein, parce que tout est bien, quoi. Et heureusement, à ce moment-là, l'autorité de sûreté nucléaire, parce que c'est quand même une installation nucléaire de base, l'autorité de sûreté nucléaire se réveille, parce qu'elle avait suivi ça de loin un peu, tu vois. ITER se construisait, avec en plus un patron au commissaire au CEA, enfin, tu vois, bon, toutes les garanties.
Bien sûr.
Et la SN regarde et dit, attendez, non, ben, vous fermez pas, il faut regarder, quoi.
Ouais, quand tu dis fermé, c'est-à-dire encloisonné, enfin...
Prêt à démarrer.
C'est ça.
Voilà, demande l'autorisation de démarrer. Okay. Là, tu dis, mais attendez, maintenant. Et donc, stop. Entre-temps, si je puis dire, Monsieur Bigot décède et est remplacé par un nouveau directeur, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui reconnaît qu'effectivement, il y a quelques problèmes.
Ok.
Parce que la SN a dit, mais attendez, tel truc, tel machin, bon. Hein, et que donc, on va prendre quelques années de retard. Alors, il faut quand même savoir que le coût de l'opération a évidemment augmenté.
Hein, oui.
Donc, on doit en être à
20, je crois qu'on est à 20 milliards maintenant.
Voilà, on en est
au
à
lieu de
5 milliards.
Au départ, je crois.
Voilà, c'est à peu près ça. D'abord, et ensuite, apparemment, les difficultés rencontrées sont importantes. Et le nouveau patron a dit, ben, c'est très bien qu'on l'ait découvert avant, plutôt qu'après, et donc on va prendre le temps. Donc on prend le temps, il y aura probablement plusieurs années de retard, et la question se pose, savoir si ITER fonctionnera un jour.
Ah oui.
Vous êtes bien sur 94.2, Radio Saint-Ferréol, et vous écoutez Un déjeuner chez Bernard. Vous êtes bien sur 94.2, Radio Saint-Ferréol, et vous écoutez un déjeuner chez Bernard. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai trouvé... Enfin, je me souviens qu'une fois, dans une des conversations qu'on avait eues au sujet d'ITER, tu m'avais parlé des conditions de réalisation de la fusion. Et tu m'avais dit la température qu'il fallait qu'on atteigne. Et j'avais trouvé... Je me souviens plus, mais c'était presque incommensurable, quoi.
C'est des dizaines de millions, c'est très élevé, il faut retrouver le chiffre.
Okay.
C'est très élevé. En fait, cette histoire, de quelle façon se manifeste le fait que... Donc le problème, c'est de dire, je vais avoir besoin d'une certaine quantité d'énergie,
ouais,
pour faire marcher tout ça, et le fait de maintenir le plasma ensemble et le chauffer à une température suffisante pour que... Donc c'est à travers la température qu'on va obtenir le fait que ces isotopes peuvent se fusionner, tu vois.
Ouais.
Bon, peut-être 160 millions de degrés, ouais. Enfin un truc, tu trouveras le chiffre. Et donc, pour faire ça, il me faut de l'énergie.
Ouais.
Donc il y a une quantité d'électricité qui va être colossale pour faire ce bazar. Et je veux obtenir... de maîtriser la fusion, c'est-à-dire que la fusion se produise pendant une certaine durée.
Ouais.
Bon, une certaine durée, et à ce moment-là, à son tour, elle produit de l'énergie.
Okay.
Mais cette énergie, c'est quoi? Cette énergie, c'est des neutrons de très forte énergie,
okay,
qui sont propulsés avec une très forte
vitesse incroyable.
Ouais. Incroyable. Donc, d'une part, ils vont taper sur les parois des terres, okay. Et dont, justement, il y avait beaucoup de recherches sur la qualité, en quoi on fait ces parois. Parce okay. Ces parois, elles seront tellement bombardées qu'il faut les remplacer régulièrement. De ce fait, ces parois deviennent radioactives, puisqu'elles sont bombardées par les neutrons. Donc, contrairement à ce qu'on dit, ITER produit des déchets radioactifs. Ce n'est pas un truc qu'on nous dit, non, par rapport au réacteur actuel, il n'y a pas de déchets. Non, il y a des déchets radioactifs. Il faut remplacer les tôles en question, probablement, peut-être tous les 6 mois, enfin, un truc hallucinant. Cette énergie, donc, c'est des neutrons. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces neutrons?
Ouais, quand est-ce qu'on fait de l'énergie utilisable?
Alors, ils vont taper dans... Ils vont taper dans un milieu qui vont réchauffer, on va produire de la chaleur, tout ça pour ça, de la chaleur. Cette chaleur produirait de la vapeur, cette vapeur on l'enverrait dans une turbine, et on ferait de l'électricité.
Okay.
Et on se dit, attendez, faire ce truc monstrueux pour à la fin faire de l'eau. À nouveau, bouillir de l'eau.
Ouais.
Et donc, déjà, on avait dit Superphénix, c'est le moyen le plus dangereux et le plus cher pour faire bouillir de l'eau. Mais maintenant, ça passe à ITER.
Ouais.
ITER, c'est le moyen le plus...
Ah, c'est la bouilloire la plus grosse
de
l'univers. La bouilloire
la plus grosse de l'univers. Mmh. Et on se dit, bah, attendez, cette histoire de... Alors, les partisans du photovoltaïque expliquent que c'est peut-être pas la peine d'aller vouloir... imiter d'une certaine façon le soleil en le refaisant sur la Terre, alors qu'on peut prendre les rayons solaires et faire directement de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques. Donc il y a deux choses. Premièrement, la découverte scientifique de prouver qu'on peut maîtriser la fusion, c'est une chose.
Ouais.
C'est autre chose de prétendre que ça sera un moyen extraordinaire de produire de l'électricité, alors qu'à côté, tu mets des panneaux photovoltaïques et tu produis de l'électricité.
Ben, moi, c'est sûr
et,
que...
Et donc, il y a un côté à la fois découverte scientifique, comme d'habitude, si je puis dire, et puis ce côté, mais oui, dans 50 ans, on aura une source d'énergie extraordinaire, alors que, pas grand monde... qui connaissent ces histoires, ne se dit que ça va servir à produire de l'électricité. Peut-être que ça servirait un jour à faire des moteurs pour aller dans la Lune ou sur Mars, etc. J'en sais rien. En tout cas, la question se pose du fonctionnement d'ITER. En parallèle, il y a beaucoup de laboratoires au monde qui travaillent sur d'autres méthodes, moins chères, disons, et plus simples, en particulier l'utilisation de lasers, etc. Mais pour le moment, chaque fois qu'on annonce une avancée, comme récemment là, dans le laboratoire américain, d'une avancée extraordinaire, etc., ben, en général, c'est C'est très prometteur, on y arrivera peut-être dans je ne sais pas combien d'années, mais pour le moment, il n'y a pas encore eu de percée. Personne n'a démontré qu'on pouvait maîtriser la fusion. Voilà. Alors tu as d'un côté des grandes machines de type ITER, et ITER est la plus grande des grandes machines, et puis de l'autre côté, tu as d'autres méthodes qui sont moins chères et plus modestes, mais qui pour le moment n'ont pas prouvé, y compris la dernière, n'ont pas prouvé qu'effectivement on pouvait maîtriser la fusion pendant un temps suffisant pour se dire que ça y est, on avait franchi le seuil de la...
Ne serait-ce que créer plus d'énergie qu'on en a consommé pour faire cette fusion, quoi.
Oui, non, mais déjà pour que ça marche, quoi.
Ouais. Bon. Parce que moi, en fait, j'ai l'impression que, quelque part dans les médias, cette fusion, elle entretient le rêve que demain, on va avoir une énergie illimitée, sans déchets, gratuite, limite. Enfin, qu'il y a tout un roman, en fait, sur « ne vous inquiétez pas, la science travaille à résoudre ce problème d'énergie ». Et en fait, quelque part, on n'a pas besoin de changer notre système énergétique parce que demain, on va avoir la solution d'ITER. Et j'ai l'impression que systématiquement, tous les 6 mois, on a un truc comme ça, quoi. Une petite musique de fond.
Mais on a dit ça à propos des réacteurs nucléaires. Puis après, on a dit les réacteurs nucléaires actuels, enfin, ceux qu'on utilise... c'est pas suffisant. On nous a fait le même roman sur les surgénérateurs. Exactement la même chose. Okay. Les surgénérateurs produisent plus de plutonium qu'ils n'en consomment. Donc, on en a pour Giscard d'Estaing. La France possède autant que l'Arabie Saoudite. Enfin, bon. Donc, chaque fois, il y a un truc nouveau. Et donc, les surgénérateurs, ça ne présente pas grand intérêt parce qu'on s'aperçoit que c'est très compliqué, c'est très cher, c'est très dangereux, etc. Et ITER, c'est pareil, c'est la légende. C'est la légende que on a fait. C'est toujours l'histoire. La pierre philosophale, le Graal, enfin des expressions historiques qui durent depuis des siècles. Et c'est le scientisme le plus basique et le plus stupide, en fait. C'est que si on veut faire de l'électricité avec des ressources qui, à l'échelle humaine, sont infinies, eh ben c'est le photovoltaïque ou l'éolien, puisque la source est gratuite et elle est quand même assez illimitée dans le temps. Peut-être un jour le soleil s'arrêtera, mais enfin bon, peut-être pas tout de suite. Mais c'est trop simple. Ça ne fournit pas du travail à des centaines de milliers de chercheurs. C'est pas extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire que les rayons du soleil qui tapent sur une plaque de silicium produisent de l'électricité. Moi, je trouve que c'est extraordinaire de simplicité. Mais la simplicité, c'est pas admissible.
Non.
Il faut des trucs très compliqués, très chers, très liés à une notion de puissance. Je ne peux pas faire d'armes, apparemment, à partir du photovoltaïque. Bon, peut-être qu'un jour, on trouvera, mais on ne peut pas, ni avec l'éolien. Donc, ce n'est pas intéressant pour le pouvoir, pour la puissance. Alors que là, la fusion, c'est quand même la puissance. Alors, il y a la puissance du côté militaire, mais l'équivalent, c'est un peu comme la fission.
Hein.
J'ai à la fois le côté civil, je fais de l'électricité, c'est très bien, mais vous comprenez, l'uranium, c'est pas éternel, donc quand même, j'ai mieux que ça, j'ai de la fusion. Et sans se poser le fait que c'est très compliqué, c'est dangereux, ça consomme aussi des matières premières qui ne sont pas évidentes, je dois remplacer sans arrêt les couvertures, il y a énormément de... Non, ça disparaît, c'est le Graal, voilà. Alors, comme je l'ai écrit d'ailleurs récemment, je crois, aux adhérents de Global Chance, justement, le Graal est inatteignable mythologie, c'est le principe du Graal. Donc, il est fort probable que la fusion, il n'est pas probable, mais il est possible que la fusion ne soit pas atteignable. Et voilà. Mais de là à transformer cette recherche scientifique par une méthode d'une lourdeur extraordinaire, auquel je préfère, moi, les recherches plus modestes qui sont faites avec des moyens plus limités, et qui peut-être arriveront à montrer la réussite de l'affaire bien avant les gros appareils de type ITER. Mais de toute façon, il y a derrière ces projets de ce type-là, la combinaison de la fascination scientifique, c'est-à-dire ces esprits brillants qui arrivent à et du pouvoir. Voilà. Et c'est cette association-là qui fait que il y a des moyens colossaux qui y sont consacrés. Pour d'autres, comme le photovoltaïque ou l'éolien, par exemple, il y a des choses très fines d'amélioration, de réduction des coûts, d'augmentation des performances, de facilité dans l'utilisation, enfin des tas d'avantages, mais il n'y a pas le pouvoir.
Oui, on n'a pas besoin du pouvoir.
Et donc, ça n'a pas ce côté fascinant pour l'humanité jusqu'ici, qui a toujours fonctionné sur le pouvoir. C'est donc une transformation, disons, de l'humanité, d'arrêter à chercher toujours les moyens, non seulement de découverte, ce qui est plutôt respectable, mais surtout d'augmentation du pouvoir, par rapport à des choses plus simples, qui sont très astucieuses par rapport aux besoins, c'est-à-dire j'ai besoin d'électricité, ok, ben je vais le faire avec le moyen le plus simple possible, que je peux faire...
Le plus proche de chez moi.
Que je peux faire à peu près partout, parce que l'électricité, on en a besoin partout. Mais il y a cette question, le pouvoir. Et le pouvoir, c'est à la fois le pouvoir de production industrielle, mais aussi le pouvoir militaire. Et c'est ça qui est dramatique, aussi bien dans l'histoire de la fission que dans l'histoire de la fusion. Et la fusion étant, du point de vue militaire, beaucoup plus dangereuse que la fission.
Mmh. Ok. Ouais. Eh bien, écoute, pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, c'est quand même intéressant.
Non, tu vois, toutes les explications. Il faudrait en parallèle avoir les explications techniques, si tu veux. Mais ça,
oui. Mais quelque part, moi, ce qui m'intéresse plus, c'était la symbolique que je trouve à entendre derrière cette fusion.
Il faudrait citer le livre de Harry Bernas. Est-ce que je l'ai là ?
Allez, bien, on va chercher ça.
Là.
Ah, mais tu l'as lu il n'y a pas longtemps.
Oui. Climate et Rose, non. Non, le chinois, non. Le situationniste, non.
Harry Bernas, B-E-R-N-A-S, physicien.
L'île au bonheur, voilà.
C'est ça le nom ?
Ouais,
L'île au bonheur, c'est un joli titre.
Et tu vois, ça, c'est l'ombre.
Ah oui, sur la couverture, il y a une ombre d'Hiroshima. Ouais. Les ombres projetées au sol. C'est incroyable ce phénomène d'ailleurs quand même.
Ouais, mais c'est pas... D'ailleurs, je voulais le voir pour lui demander comment il expliquait ça. En fait, je pense que c'est le fait qu'il y avait le corps qui... C'est pas l'ombre.
Ah, c'est pas l'ombre.
C'est le fait que le sol a été transformé par les rayonnements... qui était arrêté par le mec, tu vois ce que je veux dire.
Ok.
C'est-à-dire
c'est une sorte d'ombre de rayonnement, enfin c'est un négatif des rayonnements presque.
Oui, voilà.
Donc L'île au bonheur, homme, atome et cécité volontaire. Mais c'est un roman, non ?
Non, oui, si. C'est...
Ah, c'est un roman.
Une partie de sa vie et l'histoire de ce scientifique, tu vois.
Ok.
Donc c'est très bien. Ça parle de... des grands physiciens de cette époque, qui étaient effectivement des scientifiques remarquables, qui se sont consacrés à la mise au point d'armes de destruction massive, donc à la fois dans un souci de curiosité et de génie scientifique, et un souci qui aboutissait éventuellement à l'anéantissement de l'humanité. Et qu'à un moment donné... tu as un sentiment de responsabilité des scientifiques, jusqu'où va la mise en service de leur génie pour des engins de destruction. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans leur tête ?
Ok, eh bien écoute, nous irons lire ce livre. Merci Bernard pour ton temps.
Non seulement mon temps, mais le café, le thé, la confiture, fromage...
C'est royal. Un petit déjeuner royal chez Bernard. À bientôt pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard. Quelques petites précisions sur des informations qui nous manquaient pendant ce podcast. ITER veut dire International Thermonuclear Experimental Reactor, n'est-ce pas? Donc il y avait bien le réacteur, il n'y avait pas le tokamak. L'autre information qui nous manquait, c'était la température du plasma. Donc ça, je l'ai trouvé sur la page Wikipédia de ITER. Donc ce plasma est chauffé à 150 millions de degrés. Je lis la suite de la phrase. Pour protéger les parois de la température, le plasma est confiné par un champ magnétique généré par des électroaimants supraconducteurs maintenus à moins 269 degrés Celsius. Il y a une autre information que j'ai trouvée assez incroyable. Le groupe annonce avoir achevé le gros œuvre du bâtiment principal qui sera livré en mars 2020. Ce bâtiment tokamak est une installation de 23 000 tonnes. Alors ça paraît beaucoup, mais c'est surtout la comparaison. Comparé aux 3 000 tonnes d'un réacteur pressurisé européen, l'EPR, donc c'est 3 fois plus lourd qu'un EPR. Et dans l'article que je posterai sur le site Global Chance, je ferai référence à un article publié sur le blog de Mediapart qui creuse un peu ces questions de fusion nucléaire. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack ALS et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard.